Et voici venu le moment d'approfondir nos connaissances, l'occasion de nourrir nos idées, le temps du plaisir d'apprendre. C'est l'heure de l'éloge du savoir. Christine Goémé, bonjour à tous. Aujourd'hui, les cours du Collège de France. Certes, Cervantes et Shakespeare ont été contemporains. Cervantes est né en 1547, Shakespeare en 1564. S'ils ne se connaissaient pas, un de leurs points de convergence est pour nous la date de leur mort, en 1616, dont nous célébrerons en avril prochain le 4e centenaire. L'UNESCO a d'ailleurs choisi en leur honneur la date du 23 avril pour en faire la journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Nombre d'écrivains et de savants s'arrangent néanmoins pour qu'ils se croisent, soit comme Anthony Borges dans une fiction, soit dans un cours passionnant comme celui de Roger Chartier, titulaire de la chaire Écrit et culture de l'Europe moderne que nous suivons ici et qui s'intitule 1616, Cervantes et Shakespeare, rencontre. Mais une autre sorte de rencontre a eu lieu entre Cervantes et Shakespeare, celle qui permit à Shakespeare et à son ami Fletcher d'écrire une pièce à partir du récit des amours de Cardenio qu'on trouve dans l'histoire de Don Quichotte. Cette pièce qui a disparu a fait couler beaucoup d'encre. On a cru l'avoir retrouvée, on l'a réécrite plusieurs fois, elle a inspiré et inspire toujours de nombreux dramaturges. Mais que savons-nous de cette pièce ? Et comment Shakespeare et Fletcher ont-ils été mis en contact avec les aventures de Cardenio ? Telle est l'enquête menée ici, qui nous permet de faire connaissance avec les modes de vie et de sociabilité, mais aussi avec les manières de travailler des auteurs, des acteurs ou encore des imprimeurs et des libraires du théâtre dans l'Angleterre du XVIIe siècle. Dans le cours que nous avons suivi hier, Roger Chartier a suivi les traces du libraire-éditeur de la pièce Cardenio, Humphrey Mosley, qui, le 9 septembre 1653, fait enregistrer pour le prix de 20 shillings et 6 pence son droit de publication d'un certain nombre de pièces de William Shakespeare et de John Fletcher, ou nous devrions dire l'inverse, puisque la célébrité du temps allait bien plus à Fletcher qu'à Shakespeare. Du coup, Roger Chartier s'est intéressé aux autres pièces que les deux auteurs avaient coécrites dans les mêmes années autour de 1613. C'est ainsi qu'on retrouve, dans les deux nobles cousins, la même structure dramatique que dans Cardenio et une intrigue tout à fait parallèle. Ce matin, Roger Chartier s'intéresse plus singulièrement à John Fletcher. Écoutez.
Fletcher était né en 1579 et on voit donc l'écart d'âge avec Shakespeare qui a 15 ans de plus que lui, puisque vous rappelez Shakespeare baptisé le 26 avril 1564. Fletcher était d'une famille protestante noble, mais une famille qui a été dans des carrières d'église. Son père a terminé comme évêque de l'église anglicane à Londres. Lui-même a obtenu un Master of Arts à Cambridge en 1598. Mais il entre très tôt dans le monde théâtral. La première pièce date de 1606. Et les traits de sa production dramatique seraient les suivants. D'abord, comme Shakespeare, il n'a écrit que pour la troupe du roi, que pour les Kingsmen, à partir de 1608, lorsque la troupe dispose aussi, comme je l'avais dit, du théâtre des Blackfriars, dans le centre de Londres, et pas seulement du Globe. C'est un auteur qui est un auteur qui illustre parfaitement la règle générale de la collaboration, non seulement à cause du Beaumont and Fletcher, mais aussi parce qu'il a collaboré avec d'autres dramaturges, Nathan Field, Philip Massinger et William Shakespeare. Et c'est un auteur qui a, en quelque sorte, établi un genre qui n'était aucun de ces trois genres canoniques, les uns parce que c'est la distinction aristotélicienne entre comédie et tragédie, les autres parce que c'est la classification du folio de 1623, comedies, histories, tragedies. Fletcher a défendu l'idée d'un genre qui serait le genre de la tragicomédie. Dans une de ses pièces, The Faithful Shepherdess, de 1607 ou 1608, il écrit ce qui définit la tragicomédie, c'est que, je cite, en traduisant, « personne n'y trouve la mort, ce qui suffit à ne pas en faire une tragédie, bien que certains des personnages s'en approchent, ce qui suffit à ne pas en faire une comédie, qui doit être une représentation de personnages familiers, avec des complications, des intrigues, qui ne mettent nulle vie en cause. » Et donc on voit que l'idée de la tragicomédie, on termine en comédie puisque personne n'est mort, mais il y a des éléments de tragédie puisque certains des personnages s'approchent de la mort. Et on voit aussi comment dans ce cas-là, l'histoire de Cardenio, telle qu'elle est contée par Cervantes, correspondait à une possibilité d'une tragicomédie, puisque évidemment trois au moins des quatre personnages s'approchent de la mort, soit par l'idée de suicide, comme Cardenio, comme Lucinda, soit par le danger même, dans le cas de Dorothea, mais que personne ne meurt et que finalement les couples se reforment, comme je le disais. Donc, raison de plus pour penser que Fletcher est vraiment l'auteur d'une « History of Cardenio », puisque c'était une histoire qui correspondait parfaitement à la définition qu'il donnait de la tragicomédie. Et que dans un certain nombre de ses pièces de la fin de sa vie, Shakespeare va reprendre, sans utiliser nécessairement tragicomédie, mais des pièces que l'on a ensuite classées sous la catégorie de « romances », qui sont ni des tragédies ni des comédies et qui ont des éléments de cette tension. Donc, voilà une des raisons de plus pour penser que Fletcher avait lu avec attention le Quichotte, donc ce que moi j'appelle la nouvelle de Cardenio, mais que Shakespeare n'appelait pas ainsi, et qu'il pouvait y trouver une matière pour une tragicomédie. Et pourquoi on peut... Je disais que c'est l'auteur qui a le plus lu Don Quichotte, ou Cervantes, les autres ouvrages, et parfois avant, et même souvent, avant leur traduction en anglais. Au moment de 1613, il a utilisé seulement un épisode du Quichotte, le fameux épisode du Curioso Impertinente, l'homme qui défie son ami de séduire sa femme, et ce qui advient. Donc, dans une pièce qu'on avait évoquée, The Coxcomb, le faquin, le fat, qui utilise cette histoire avec un personnage Antonio, son ami Mercury, et la femme qu'il doit séduire et qu'il séduit. Et cette pièce a été publiée dans le folio de 1647. Et vous vous souvenez que, effectivement, c'est la pièce qui a... c'est cette partie-là du Quichotte qui a été l'objet des premières appropriations pour le théâtre, puisqu'il y a des pièces contemporaines des années 1607-1610 qui utilisent le Curioso Impertinente. Et on peut penser que la rencontre avec Cardenio en 1613 a ouvert chez Fletcher cette pratique de s'emparer de fragments, d'histoires, d'intrigues, de personnages de Cervantes pour nourrir ses pièces. Évidemment, il est difficile parfois d'établir un lien absolument direct, et là on retrouverait la discussion sur des rencontres par homologie et puis des emprunts authentiques. En tous les cas, ce qui apparaît, c'est qu'effectivement le Quichotte reste pour lui une lecture importante, puisque deux autres pièces vont utiliser le Quichotte, The Pilgrim en 1621, qui utilise la conversation de la premier chapitre de la deuxième partie du Quichotte de 1615, ou la même année, 1621, The Double Marriage, le double mariage, qui utilise là aussi un motif qui est le moment où Sancho, dans l'île de Barataria, dont il est devenu le gouverneur, dans la deuxième partie, a cette scène avec les médecins qui veulent lui interdire de manger quoi que ce soit, puisque tous les mets sont contraires à la santé. Ce qui est repris d'ailleurs par Molière dans une scène de Don Juan. Mais ce qui caractérise Fletcher, c'est, il y a plus encore, l'utilisation des nouvelles exemplaires. Ce recueil de novelas, au sens d'histoire brève, au sens de nouvelles, qui est publié à Madrid en 1613 et qui n'est pas traduit en anglais avant 1640. Et donc, Fletcher utilise soit le texte espagnol de 1613 et réédité, soit la traduction française de 1615. Et il y a au moins quatre pièces qui sont fondées sur des nouvelles exemplaires. En 1616, Love's Pilgrimage, le pèlerinage d'amour, est fondé sur la nouvelle Las dos doncellas, les deux jeunes filles. En 1617, The Chances est fondé sur la Señora Cornelia. En 1624, la pièce qui s'appelle Rule a Wife and Have a Wife, gouverner une femme et avoir une femme, est fondée sur El Casamiento Engañoso, le mariage trompeur. Et en 1626, The Fair Maid of the Inn est une traduction, y compris littérale, du titre de la... Enfin, le titre est une traduction littérale d'une des nouvelles exemplaires, La Illustre Fregona, l'illustre laveuse de vaisselle. Et plus curieux encore, Fletcher, enfin plus curieux, mais plus rare, Fletcher utilise aussi les travaux de Persiles et Sigismunda, le dernier livre de Cervantes, celui qui a ouvert ce cours avec ses prologues et son adresse au lecteur au moment même où Cervantes est mourant sur son lit de mort en 1616. Le livre est publié posthumement l'année suivante, 1617. Et là, Fletcher pouvait utiliser l'original espagnol, la traduction française de 1618, il y en a même eu deux la même année, concurrentes, et en 1619, la traduction anglaise, qui est une autre manière de montrer un autre effet rétrospectif. Bien sûr, Don Quichotte est un livre insurpassable, mais pour, sans doute, Cervantes, qui, avec les trabajos de Persiles y Sigismunda, voulait produire une œuvre capable d'être concurrente du grand roman hellénistique de la fin de l'Antiquité, en particulier d'Héliodore. Et d'autre part, comme on le voit, pour les publics, puisque ce livre, publié en 1617, est traduit l'année suivante, deux fois en français, par deux auteurs concurrents pour leurs éditions, et est traduit en 1619 en anglais. Alors que, je le rappelais, les nouvelles exemplaires doivent attendre 1640, et en plus c'est une traduction partielle. Il n'y a qu'une partie des novelas ejemplares qui apparaissent dans la traduction anglaise. On voit donc qu'on aurait sans doute un grand intérêt à revenir plus souvent aux travaux de Persiles y Sigismunda pour comprendre Cervantes, et surtout pour comprendre la réception de Cervantes dans l'Europe du début du XVIIe siècle. Fletcher l'utilise dans The Custom of the Country, qui est une allusion au droit de cuissage revendiqué par certains nobles, rappelez-vous l'intrigue du mariage de Figaro, et qui était présent dans un chapitre ou plusieurs chapitres des travaux de Persiles et Sigismunda. Donc, la collaboration de 1613 pour Fletcher, on pourrait dire que dans un sens, elle est un peu anecdotique. Il a tellement collaboré avant avec Beaumont, avec Field, plus tard il collabore avec Field, avec Massinger, que collaborer avec Shakespeare est dans le régime ordinaire de sa pratique du théâtre. Ce qui la singularise dans le cas de The History of Cardenio, c'est la relation qu'elle établit avec Cervantes, une relation déjà présente puisqu'il est un des premiers à s'être emparé des trois chapitres du Curioso Impertinente pour en faire une pièce de théâtre, et une collaboration qui peut-être à travers le travail sur d'appropriation de Cardenio lui a ouvert cet horizon qui fait de lui le dramaturge le plus cervantin de l'Angleterre. Alors la question qui reste, c'est comment penser l'attribution à Shakespeare ? Est-elle aussi évidente que celle à Fletcher. le nom de Shakespeare apparaît après un point, sans master, et comme s'il avait possiblement été ajouté dans la ligne. Et ce qui a pu renforcer certains doutes, ce sont d'autres attributions par Moseley dans ses différents enregistrements à Shakespeare de pièces qu'aucune tradition n'a jamais retenues dans le corpus shakespearien. Par exemple, dans ce même enregistrement des 41 pièces de 1653, on a The Merry Devil of Edmonton by William Shakespeare. Et cette pièce n'est pas du tout inconnue, c'est une pièce qui a été publiée en 1608, anonyme, qui a sans doute été représentée entre 1612 et 1613, puisqu'on l'avait trouvée dans les pièces payées par les trésoriers du roi pour la compagnie de théâtre. Elle a été rééditée trois fois avant 1653, mais elle n'est jamais entrée dans le corpus shakespearien. Le corpus shakespearien ayant en plus ayant cette mobilité ou malléabilité, puisqu'on commence avec les 36 pièces du folio de 1623, mais en 1664, pour la seconde réédition du folio, j'ai évoqué celle de 1632 qui reprend le corpus des 36 pièces, mais en 1664, on ajoute 7 pièces attribuées à Shakespeare, mais qui vont, au cours du XVIIIe, être retirées du corpus, mais pas le Merry Devil of Edmonton, le diable, le joyeux diable de Edmonton. On a donc là une attribution par Moseley d'une pièce qui laisse sans doute le seul à avoir attribué à Shakespeare. Mais entre parenthèses, on voit que cette mobilité de la définition du corpus est un élément supplémentaire pour cette plaider ou souligner l'écart entre une définition moderne de la littérature où le corpus des œuvres n'est pas lié à leur reconnaissance de leur authenticité, mais il est lié à savoir ce qui fait œuvre et ce qui ne fait pas œuvre, alors que pour un auteur comme Shakespeare, mais tous les auteurs élisabéthains, c'est la variation historique des pièces qui ont été reconnues ou exclues comme de la main de cet auteur qui est le phénomène essentiel. On pourrait même le trouver jusqu'aux éditions contemporaines. C'est-à-dire, est-ce que l'on inclut dans les éditions contemporaines des pièces où on a reconnu la main, alors là, dans le seul cas autographe de Shakespeare's Sir Thomas More, ou bien cette intégration de Cardenio, même si on n'en met qu'une mention du texte. Donc il y a une mobilité, une incertitude autour de cette définition, mais en tous les cas, dans le cas du Merry Devil of Edmonton, il n'est jamais entré dans aucun des corpus shakespeariens. Et surtout, il y a deux autres pièces, Henry the First and Henry the Second, qui sont données by Shakespeare and Davenport, c'est-à-dire un Henri Ier. Enfin, les deux parties de Henri Ier, attribuées à Shakespeare et Davenport. On sait qu'une pièce qui portait sur Henri Ier d'Angleterre a été autorisée par le Master of Revels, le maître des menus plaisirs du roi, en 1624, qu'elle a été attribuée à Davenport, mais jamais aucune autre association de cette pièce ou de ces deux pièces sur Henri Ier n'a été faite en relation avec Shakespeare. Il y a donc une certaine incertitude ou une certaine imprécision dans les attributions de Moseley. Et on le retrouverait dans longue liste de pièces qu'il fait enregistré par la Stationer's Company comme sa propriété en 1660, où il attribue à Shakespeare The History of King Stephen, The Duke Humphrey, A Tragedy, and Iphis and Ianta, or A Marriage Without a Man. Aucune de ces trois pièces, l'histoire du King Stephen, la tragédie du Duke Humphrey et ce Iphis et Iantea, ou le mariage sans homme, présenté comme une comédie, n'ont été attribués à Shakespeare. Donc le doute s'est insinué sur le Shakespeare lié à The History of Cardenio, et peut-être plus généralement sur les attributions de Mosley. Il y a eu une réaction pour deux raisons, et là je suis de très près un des plus grands spécialistes de cette question, qui est Gary Taylor. D'un côté, finalement, dans l'ensemble, les imprécisions de Mosley ne sont pas plus fortes que celles de tous les autres libraires-éditeurs, et que donc c'est un mélange de ce qu'il imaginait et de ce qui était la réalité, mais il y a un socle de réalité derrière ces attributions. Alors pourquoi maintenir Shakespeare ? Pour la raison suivante, c'est que la formule du titre, « The History of Cardenio », et on a pu montrer que ce type de titre, « The History of Cardenio », « The History of quelque chose », est un titre beaucoup plus shakespearien que de tout autre dramaturge. Les Fletcher, il n'y a aucune pièce qui a pour titre « The History of », et pour d'autres dramaturges, une au maximum deux pièces peuvent avoir cette formule. Alors que dans le cas de Shakespeare, la liste est longue. The History of Henry IV, le Henri IV de 1598. Le Chronicle History of Henry V, le Henri V de 1600. The Most Excellent History of the Merchant of Venice, en 1600, là aussi. The Tragical History of Hamlet, Prince of Denmark, c'était l'édition de 1603, puis repris en 1604. His True Chronicle, History of King Lear and His Three Daughters, en 1608. L'édition quarto du roi Lear, et qui commence par his, parce qu'il y a, dans la volonté d'affirmer sur le marché des pièces, ce King Lear de Shakespeare contre un précédent King Lear publié en 1605, et Shakespeare déjà doté d'une réputation forte. La page de titre commence par Master William Shakespeare is His True Chronicle, History of King Lear. Mais c'est une exception, c'est dans un conflit d'édition que l'on a cette ostentation du nom d'auteur. Mais la série pourrait se continuer avec The History of Troilus and Cressida, en 1609, ou The Famous History of the Life of King Henry VIII, dans le folio de 1623. Donc on a là une trace, un indice, du fait qu'une attribution d'une pièce qui a porté The History of a une grande possibilité d'être shakespearienne, soit que Shakespeare lui-même donnait ses titres, soit que la formule se soit attachée aux pièces de Shakespeare à travers toutes leurs éditions. Comme on le voit, il y a ici sept pièces qui sont construites dans le titre sur la formule « The History of ». Donc, au point où nous en sommes, on peut dire qu'avec ce document de 1653, on a une pièce qui avait un titre ou un thème et qui maintenant a un véritable titre, The History of Cardenio, qui a deux auteurs, Baum, Fletcher et Shakespeare, qui sans doute avaient un texte, puisque le régime des entries dans la Stationer's Company suppose que vous ayez cette copie, et qu'elle soit enregistrée comme telle. Et très souvent, dans les entrées de la Stationer's Company, vous avez « the book of », c'est-à-dire une matérialité. Donc, il y a eu un livre qui correspondait à « The History of Cardenio ». Mais Mosley, comme pour beaucoup d'autres de ses titres enregistrés, n'a jamais publié cette pièce. Il en avait la propriété, mais comme on l'a vu, il a la propriété sur des dizaines de pièces, et il n'en a publié qu'une partie. Néanmoins, cette propriété s'est transmise, c'était le cas de propriété des writing copies, il pouvait être considéré comme permanent, perpétuel, pouvait être transmis en héritage, pouvait être partagé, pouvait être cédé, et on a une trace de cette vie de ce writing copy, puisque qu'en 1718, il y a un document qui est à l'occasion d'une session de right of copy d'un libraire à un autre, de Mosley et ses héritiers à Thomson, et on voit qu'il y a la liste dans ce document de tous les right in copy de Mosley entre le 29 mai 1630 et le 8 août 1661, et on y retrouve bien The History of Cardano by Fletcher and Shakespeare. Et à ce moment-là, ces right in copy sont acquis par un libraire éditeur très important qui est Jacob Thomson, puisque Jacob Thomson est l'éditeur des Works of Shakespeare pour le XVIIIe siècle. C'est lui qui a déjà édité à ce moment-là, 1718, une première œuvre complète de Shakespeare, qui est l'édition de 1709 de Nicholas Rowe, qui est la première qui vient se succéder à la série des folios, 23, 32, 64 et 85. Et c'est lui qui a commandé, ou commandera, à Pope une nouvelle édition qui paraîtra en 1725. Donc il a un intérêt à acquérir tous les right in copy sur des œuvres de Shakespeare ou attribuées à Shakespeare. Et c'est pourquoi il acquiert auprès de Mosley et de ceux qui le représentent cette right in copy mise en liste et dans lesquelles on trouve Cardano. Mais lui aussi, Thomson, Jacob Thomson, ne publiera jamais séparément ce Cardano dont il avait la propriété, et nous ne savons pas s'il avait du même coup un manuscrit. Il est là une question insoluble de savoir si avec la liste des right in copy s'était transmis la totalité ou une partie des copies elles-mêmes, c'est-à-dire des manuscrits. Donc on a une pièce avec un titre, avec des auteurs, sans doute avec un manuscrit mais perdu, avec un right in copy transmis, mais une pièce sans texte, puisqu'elle n'a pas été publiée ni après les représentations de 1613, ni par ceux qui détenaient le right in copy, Mosley 1653, Thomson 1718. Une pièce sans texte avec peut-être deux exceptions. La première, vous me direz, c'est la plus rudimentaire, son titre, The History of Cardano. Mais peut-être un fragment qui serait le chant chanté sur scène, l'aria chantée sur scène par Dorothea, qui, comme je le rappelais, a été séduite par Fernando, lui a cédé après avoir reçu sa promesse, le serment et même un anneau qui lui passe au doigt, mais qui a été trahi, puisque Fernando l'abandonne pour sa passion ou son désir pour Lucinda, qu'il va épouser. Et Dorothea, comme Cardenio, désespéré pour la même raison, s'est retiré dans la Sierra Morena, Dorothea, elle aussi, après de nombreuses péripéties qui l'amènent à se déguiser en homme, entre dans la Sierra Morena. Et dans le texte de Cervantes, traduction de Canavaggio, c'était le premier chapitre de la quatrième partie, maintenant le chapitre 28. Et les personnages sont Cardenio, le barbier et le curé, qui sont à la recherche de Don Quichotte, qui s'est retiré à son tour dans la Sierra Morena. Je cite la traduction. « Au moment même où le curé se disposait à consoler Cardenio, puisque Cardenio a conté de manière rétrospective tous les épisodes de son malheur, au moment même où le curé se disposait à consoler Cardenio, il en fut empêché par une voix qui parvint à ses oreilles et en de tristes accents disait ainsi : « Hélas, mon Dieu, serait-il possible que j'aie enfin trouvé un lieu qui puisse de servir de sépulture cachée à ce corps dont, bien malgré moi, je supporte le lourd fardeau. Oui, sans doute, si la solitude que promettent ces montagnes ne me trompe pas. Ah, malheureuse ! Comme elle serait plus agréable que celle d'aucun être humain au monde, la compagnie que feraient à mes desseins ces rochers et ces broussailles, en me donnant le loisir de me plaindre et de faire part ainsi de mon infortune au ciel plutôt qu'à aucune autre créature humaine. Car il n'est point de compagnie sur terre dont on puisse attendre conseil dans le doute, réconfort dans les peines, remède dans les maux. Toutes ces paroles furent entendues distinctement par le curé et par ceux qui étaient avec lui. Et comme il leur parut, ce qui était le cas, qu'on les disait tout près de là, ils se levèrent pour en chercher l'auteur. Et ils n'avaient pas fait 20 pas qu'ils découvrirent, derrière un rocher, assis au pied d'un frêne, un jeune garçon vêtu comme un paysan. Comme il tenait son visage penché, attendu qu'il se lavait les pieds dans un ruisseau qui coulait à cet endroit, ils ne purent d'abord le distinguer. Et ils s'approchèrent en observant un tel silence qu'il ne s'aperçut pas de leur présence, tout occupé qu'il était à se laver les pieds, si blanc qu'on eût dit des morceaux de blanc cristal nés parmi les autres pierres du ruisseau. Et il se découvre que lorsque le garçon ôte son bonnet et remue la tête, que ce garçon est doté d'une magnifique chevelure et que donc ses longs cheveux blonds ne couvraient pas seulement les épaules, ils l'enveloppaient et la cachaient tout entière, et donc se découvre Dorothea sous les apparences de ce jeune garçon. Donc, on a ce moment-là dans Don Quichotte, ce qu'a pu lire Fletcher et Shakespeare dans la texte original espagnol ou dans la traduction de Shelton. Dès le milieu dans des manuscrits du XVIIe siècle, on a des airs qui ont été composés par un compositeur anglais qui était en même temps un luthiste, qui jouait du luth, qui s'appelle Robert Johnson. Et il était au service de la troupe des comédiens du roi depuis 1609. Et il le restera jusqu'en 1628. Et parmi les manuscrits de ces airs ou chants qu'il a composés, il y en a un qui commence par « Woods, rocks and mountains and the desert place », les bois, les rochers, les montagnes et le lieu du désert. Et c'est un air sous la forme classique du « lamento », où pour Med, une pauvre jeune fille qui se plaint des trahisons de l'amour. Il y a par exemple ce vers « Hollow loves that never keep truth in their hearts », les faux amants, hollow lovers, les faux amants qui ne gardent jamais la vérité dans leur cœur, c'est-à-dire qui trahissent leurs promesses faites comme mariage, épousailles avec la jeune fille. Donc on a ce texte, il n'est pas question de nom, c'est un texte chanté par une jeune fille, pour Med, mais elle n'est pas nommée. Mais il est question de ce genre qui a pu être étudié, du lamento, de la lamentation, qui est à la fois un genre poétique, un genre musical, et même dans le cas italien, un genre typographique, puisque des petits livrets sont des lamenti sur tel ou tel objet personnel ou historique. Et donc, on a à partir de là une double hypothèse. La première hypothèse, elle est fondée sur la concordance qui existe entre les paroles de cette ère et ce que j'ai lu du Quichotte. Et une concordance qui n'est pas simplement une jeune femme qui se plaint de la trahison de son amant, Hollow lover, mais qui la situe avec des grandes parentés de vocabulaire. Dans les deux textes, l'aria et Don Quichotte, on a les montagnes, les rochers, la forêt ou les broussailles, on a le ruisseau, Silver Fountain and Hollow Waters, là encore, les eaux qui déçoivent, les eaux qui sont fausses, trompeuses. Et J'ai lu le texte en français, mais le vocabulaire de la traduction de Shelton de 1612 est évidemment très concordant avec le vocabulaire rencontré dans cette aria. Alors, première hypothèse, cette air peut avoir en rapport une relation avec Dorothea de la Nouvelle de Cardenio. Deuxième hypothèse, attribuer ce chant, cet aria, les paroles, à Fletcher. Et ici, c'est un travail qu'a fait Gary Taylor en utilisant toutes les... Le travail est complexe dans le détail, mais assez simple dans le principe. C'est-à-dire, retrouvant d'ailleurs une formule de la philologie du XVIIIe siècle, ce que l'on appelle les verbal parallels, c'est-à-dire de voir des associations de mots, en général, verbe, adjectif, enfin sujet, verbe, adjectif, adjectif, nom, de voir ces associations de mots et de repérer si elles sont plus ou moins fréquentes dans tel ou tel auteur. Travail que la philologie du XIXe siècle faisait à grand-peine, puisqu'il y fallait comparer des textes qui n'étaient pas toujours nécessairement disponibles, alors que le monde numérique permet évidemment l'immédiateté de ces comparaisons. À partir du moment où les textes ont été numérisés, comme par exemple dans ce Literature Online, vous pouvez, en appelant une séquence de mots, voir où elles se rencontreraient dans les corpus numérisés. Et dans le cas de la littérature dramatique anglaise du XVIIe siècle, presque la totalité des pièces sont accessibles dans cette forme numérique, au moins pour des auteurs importants. Et avec ce travail, comparant les associations verbales de l'aria de Johnson, ça c'est la chose sûre qu'il a été composé par lui, et les auteurs du temps, ce qui ressort est la grande proximité entre ces associations verbales chez Fletcher et dans le texte de cette aria. D'autre part, un autre argument renforce peut-être cela, c'est-à-dire que le texte de l'aria est écrit dans une formule métrique qui est le pentamètre iambique et qui est une formule presque exclusive, sinon totalement exclusive, à Fletcher, mais par exemple jamais utilisée par Shakespeare et jamais utilisée par beaucoup d'autres dramaturges. Donc il y a une sorte de probabilité, de plausibilité pour attribuer le texte de cet aria à Fletcher. Donc du coup, vous me direz, ça renforce ce que j'ai déjà dit, c'est-à-dire l'attribution, la véridicité de la présence de The History of Cardenio by Master Fletcher. Alors pourquoi cet argument peut avoir une importance pour Shakespeare ? Et pour l'attribution à Shakespeare. Il faut faire un autre détour. C'est par un texte qui est intermédiaire entre le Cardenio perdu de 1613 et la History of Cardenio, l'enregistrement par Mosley de 1653. Cet intermédiaire est un curieux texte de Edmund Gayton, ça s'écrit G-A-Y-T-O-N, qui s'appelle Pleasant Notes Upon Don Quixote, note amusante à propos de Don Quixote, un texte qui sera publié en 1654, donc l'année après l'enregistrement, mais qui peut être utilisé pour éclairer cet enregistrement. On est dans un moment d'ailleurs où il y a un intérêt pour Don Quixote, puisque en 1652 a été réédité pour la première fois la traduction de Shelton, de 1612 première partie, 1620 deuxième partie. Curieusement d'ailleurs, c'est la première fois où Don Quixote apparaît dans un format in-folio dans toute l'édition européenne, puisque cette réédition de 1652 de la traduction de Shelton a ce format-là. Alors Gayton, s'emparant de cette réédition, construit un texte fascinant, difficile, dans lequel, pour chacun des chapitres de Don Quixote, dans la traduction de Shelton, il donne un argument en vers, puis des notes, des commentaires qui s'attachent à des fragments du texte. Et ces commentaires ou ces notes, pour les non-spécialistes dont je suis, sont assez complexes dans la mesure où ils font des multiples références à l'actualité littéraire, intellectuelle et politique du temps. C'est une sorte d'actualisation de Don Quichotte avec de multiples références, les unes érudites, littéraires, dramaturgiques, et d'autres avec la situation politique du temps. Et dans les résumés et dans les commentaires qui portent sur les chapitres où on rencontre Cardenio et Dorothea, il donne de longs poèmes en vers pour le récit de Cardenio, des sortes de paraphrases en vers du texte en prose, Cardenio's Story, 147 quatrains, ou bien Dorothea's Tale, qui a 319 vers. Alors, vous me direz quel rapport avec notre discussion? Le rapport est le suivant. C'est le fait que lorsqu'il arrive à la rencontre entre le curé, le barbier, Cardenio et Dorothea, vous avez vu ici, elle est décrite comme ils entendent une voix, des paroles qui sont dites distinctement par cette voix, et un texte d'une sorte de monologue, de lamento qu'elle se dit à elle-même de Dorothea. Lorsque Gayton commente ce passage, on a l'impression qu'il commente un chant, un aria, dans la mesure où, ici, ce qui était seulement traduit par Shelton comme « voice » ou « all the words » devient une plainte chantée, multiples références à la qualité de la voix et références à la musique. « Extraordinary pleasant voice », So ravishing a voice, un plus loin, echo and falling tunes. Donc un vocabulaire de la musique, une attention à la voix qu'on porte plus naturellement sur une voix qui chante que sur une voix qui parle, comme si Gayton avait assisté à une représentation de la pièce et ne se contentait pas de commenter le texte dans la traduction de Shelton, mais indirectement faisait allusion au fait que Dorothea chantait. Et on sait évidemment, suffit d'avoir vu des pièces de Shakespeare, que dans de nombreux moments, il y avait des intermèdes, des interludes, ou même des airs qui étaient chantés dans les pièces. Et du coup, ça suggérerait que les représentations du Cardenio de 1613 n'ont pas été les seules, l'une à la cour, Whitehall, l'autre devant l'ambassadeur du duc de Savoie, à Greenwich, mais que la pièce avait pu entrer dans le répertoire des Kingsmen et qu'elle a donné lieu à un certain nombre de reprises. Et ceci permettrait d'éclairer la signification d'une allusion dans une lettre d'un diplomate qui s'appelle Thomas Roe, R-O-E, à la fameuse épouse du prince palatin, Elisabeth, la fille de Jacques Ier, qui est une lettre du 29 octobre 1630, et où il est question d'une discussion sur toutes les échanges, conversations à propos d'un traité de paix qui vient d'être signé entre la France et l'Espagne. Et dans cette lettre, Thomas Roe évoque une grande calamité qui a fait que les théâtres ont été fermés. Et il s'agit d'une autre peste. Une autre raison de fermeture des théâtres, c'était pas seulement le puritanisme de la Révolution anglaise, mais c'était aussi chaque fois d'une épidémie de peste. C'est arrivé très fréquemment durant la période où Shakespeare écrit des pièces de théâtre. Et une chronologie problématique des pièces peut être liée aussi à ces moments de fermeture des théâtres. Et il ajoute, Thomas Roe, 1630, « Si nos esprits avaient été remplis avec les amours de Pyrrhame et Thisbé, ou les fortunes diverses de Don Quichotte, the various fortunes of Don Quichotte, nous ne nous serions jamais préoccupés autant de savoir qui a fait la paix ou la guerre, mais seulement sur la paix et la guerre sur la scène. Donc l'idée que la fermeture des théâtres a fait que la discussion autour des questions diplomatiques a dévoré les conversations, et que ça n'aurait pas été le cas si les esprits avaient été occupés par les amours de Pyrame et Thisbé ou les fortunes diverses de Don Quichotte. Alors cette mention a fait intérêt, problème. Les amours de Pyrame et Thisbé est sans doute une allusion, évidemment, au Midsummer Night Dream, le songe d'une nuit d'été, dans lequel, vous vous souvenez, au cinquième acte, les artisans d'Athènes, pour complaire à la cour, ont organisé leur propre spectacle, qu'ils appellent la comédie de Pyrame et Thisbé, et qui est, évidemment, tourne au ridicule, puisqu'ils n'ont pas les moyens, les techniques pour donner cette représentation comme il se devrait. L'idée que l'on peut désigner une pièce à partir d'un nom de personnage qui n'est pas dans le titre de la pièce est tout à fait commune. Donc l'idée que Pyrame et Thisbé vaut pour le songe d'une nuit d'été est renforcée par de nombreux exemples. Par exemple, dans le folio des œuvres de Shakespeare qu'il possédait, le roi Charles Ier avait indiqué comme un nouveau titre « Malvolio pour la nuit des rois », un des personnages devenant le titre de la pièce. Et on l'avait vu dans le registre des contes de 1613, lorsqu'il était question d'une pièce représentée qui avait pour titre Hotspur et qui était sans doute le premier Henri IV de Shakespeare, puisqu'il est mentionné sur la page de titre ses exploits ou ses destins du duc de Percy, Hotspur, ou bien dans le même document, Béatrice et Bénédicte, qui valaient pour Much Ado About Nothing, beaucoup de bruit pour rien. Donc il y a là un très commun de désigner une pièce en prenant un caractère, enfin un personnage ou une série de personnages. Alors, de coup, le problème, quelle est la pièce que Thomas Rowe pouvait désigner avec Don Quichotte ? Dans la mesure où, jusqu'à ce moment-là de l'histoire, aucune pièce n'a jamais, à notre connaissance, n'a jamais explicitement indiqué que Don Quichotte en était un des personnages. Et donc, une recherche a pu être faite pour savoir si dans la liste des titres des pièces que l'on connaît entre 1605 et 1630, 1605 puisque c'est la publication de La Historia de Cervantes, et 1630 qui est la date de la lettre, un titre pouvait évoquer une présence, une relation avec Don Quichotte. Ce qu'il a trouvé, c'est qu'effectivement, il y avait des pièces qui étaient fondées sur Don Quichotte, mais où Don Quichotte, évidemment, ne devait jamais apparaître, c'est-à-dire les trois pièces fondées sur la nouvelle du Curieux Impertinent, Amends for the Ladies, The Coxcomb by Fletcher, and The Ladies' Tragedy par Middleton, intrigue secondaire, qui démarque de très près, d'ailleurs, le curieux impertinent. Mais aucune de ces pièces pouvait être indiquée comme en rapport avec Don Quichotte, qui, par définition, n'y apparaît pas. La seule pièce dont un titre pourrait suggérer que Don Quichotte éventuellement était présent, c'est « The History of Cardenio » de 1613. C'est la seule possibilité, ce qui est évidemment tout à fait important pour deux raisons. La première, que si on admet cela, c'est-à-dire qu'une pièce qui est sur les amours de Cardenio néanmoins peut être désignée en 1630, puisqu'on ne voit pas quelle autre pièce pourrait être désignée par Thomas Rowe à partir du nom de Les Fortunes Diverses, The Various Fortunes of Don Quichotte. Si on admet ça, ça voudrait dire que dans la pièce de 1613, même si elle portait comme titre Cardenio, The History of Cardenio, Don Quichotte apparaissait, en dépit du titre. Il y a d'une plausibilité à cela, c'est-à-dire dans le livre que j'avais publié, j'avais essayé d'analyser en parallèle d'autres adaptations théâtrales de Don Quichotte, contemporaines ou presque contemporaine. Et l'on voyait que dans toutes ces adaptations, Don Quichotte était présent sur la scène, soit parce que la pièce elle-même s'appelait Don Quixote de la Mancha, qui était le titre de la Commedia de Guillén de Castro, sans doute écrite avant 1608 et peut-être immédiatement après la publication de l'Histoire, même si dans cette pièce de Guillén de Castro, l'essentiel est l'histoire des amours et des amours de Cardenio. Mais Don Quichotte apparaît comme le personnage comique, dédoublé avec Sancho, comme ce personnage typique des comédias qui est le gracioso des comédias, celui qui est investi d'une fonction de faire rire. Donc là, le titre et le texte montrent Don Quichotte. Mais la pièce la plus proche aussi chronologiquement, c'est-à-dire une pièce française de Pichou, Les Folies de Cardenio, publiée en 1629, représenté par les comédiens du théâtre de Bourgogne, de l'hôtel de Bourgogne en 1628, elle ressemble beaucoup à The History of Cardenio, Les Folies de Cardenio, et Don Quichotte y est présent, comme contrepoint comique, toujours avec cette dimension d'extravagance, de comédie, dans ce qui peut être une dimension plus tragique, c'est-à-dire les trahisons et les peines des jeunes gens. C'est pour ça d'ailleurs que le texte de Pichou est présenté comme tragicomédie. Donc on aurait là une indication de ce qui a beaucoup préoccupé les critiques, de savoir si dans une pièce qui s'appelait Cardenio, qui était donc tirée du Don Quichotte comme livre, Don Quichotte comme héros, apparaissait. À suivre Thomas Rowe, oui. La deuxième conséquence qu'on peut tenir de cette lettre de 1630, c'est la présence perpétuée de Cardenio dans le répertoire des Kingsmen, puisque Thomas Rowe y fait allusion comme si c'était une pièce encore présente dans les esprits. C'est les aventures de Don Quichotte. Alors vous me direz encore, mais pour quel rapport avec Shakespeare ? Le rapport avec Shakespeare est que Gayton utilise dans son texte les plaisantes notes sur Don Quichotte une expression que l'on trouve nulle part ailleurs et qui est de désigner Don Quichotte comme le Shake-Spear, ça dépend de la prononciation, of the Mancha, c'est-à-dire littéralement celui qui manie la lance, Shake-Spear. Mais évidemment, cette formule qui ne se trouve pas dans la traduction de Shelton et qui se comprend en rapport avec les multiples annotations que Gayton fait en liaison avec des pièces ou des dramaturges anglais contemporains, ne peut pas ne pas faire penser à Shakespeare, et peut-être qu'on prononçait Shakespeare à l'époque, et que le jeu avec to shake et le pair comme lance était une plaisanterie qu'on faisait sur le nom, et c'est déjà une tradition qui avait commencé avec un des tout premiers textes que l'on a sur Shakespeare, qui est une critique d'ailleurs, de Thomas Green, 1592, et qui évoque The Shake Scene. Alors, Shake-Scene. Et ça se perpétue avec comme un jeu de mots, une plaisanterie sur le nom de Shakespeare. On a par exemple un épigramme de Thomas Bancroft où on rencontre « Thou hast so used thy pen »« Tu as tellement utilisé ta plume » ou, entre parenthèses, « Shook thy spear »« Oh, tu as tellement remué ta lance » Donc cette idée-là, d'une part, que on pouvait jouer avec un tiret qui séparait « shake », le verbe « to shake » de « spare » ou autre mot, « shake spare »,« shake scene » était lié à la graphie même du nom de Shakespeare sur les pages de titre des éditions, puisqu'on a pu se rendre compte que dans les signatures de Shakespeare que l'on a, qui sont au nombre de 6, il ne met aucun espace entre le K et le S. Toutes les pages de titre qui utilisaient en italique le nom de Shakespeare ne pouvaient pas faire cela dans la mesure dans, où on est devant des graphies où le K a une longue jambe et où le S était un S long. Et donc, typographiquement, la rencontre entre le K et le S en italique produisait une sorte de fragilité de la composition et le risque que ou bien l'impression soit très mauvaise ou bien les lettres soient altérées. Ce qui fait que on a introduit typographiquement entre le K et le S en italique soit le E, qui est toujours le nôtre, soit un tiret, E et tiret, pour que la stabilité de la composition typographique soit donnée. Et cet usage s'est maintenu alors même que l'on n'imprimait plus en italique le nom de Shakespeare. Et même si c'est imprimé en romain, et même avec des K qui n'ont plus de longues jambes, on a cette introduction de quelque chose, E tiret ou E étiré, entre le K et le S. Ce qui est une belle réflexion qui avait été faite par Randy MacLeod sur le fait que, y compris le nom propre, est produit par la publication, non seulement la réputation, non seulement les attributions, mais y compris le nom propre. Et le nom typographique de Shakespeare n'est pas celui qu'il utilisait dans la variété de ses signatures, mais au moins un point commun de toutes les signatures que l'on connaît était que K et S n'étaient pas séparés. Donc, une fois admis cette idée, Shake séparé, on pouvait jouer avec le nom en y associant la scène ou en associant la lance. Et donc, du coup, cette référence de Gayton to Shakespeare renvoie à le seul autre énoncé de tout le XVIIe siècle dans lequel on trouve dans la même phrase et Don Quichotte et Shakespeare. Don Quichotte comme le Shakespeare of the Mancha. Et donc c'était le fait qu'on aurait là d'une seconde rencontre littérale, pas celle imaginée comme par Burgess, pas celle déduite de nos raisonnements sur l'attribution des pièces, mais dans un même syntagme, Don Quichotte et Shakespeare, Cardenio et Shakespeare, donc implicitement Cervantes et Shakespeare. Et en même temps, comme vous le voyez, s'il utilise Shakespeare, le Don Quichotte qui remue, manie sa lance, c'est une référence à ce qui a été la métaphore ou la synecdoque qui donnait signification à tout le livre, c'est-à-dire la scène avec la lance de l'attaque contre les moulins à vent. The fight with the windmill.
C'était Éloge du savoir, le Collège de France, avec aujourd'hui Roger Chartier, titulaire de la chaire écrit et culture dans l'Europe moderne. Toutes les informations sont disponibles sur le site internet du Collège de France et vous pouvez télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Réalisation, Anne Sécheret. Présentation, Christine Goémé. Rendez-vous demain pour la suite du cours intitulé « Cervantes et Shakespeare, rencontre ». Belle journée à tous, à l'écoute de France Culture. Never again do you deny.
stay at home.